Chapitre 33. L'analogue de Brown Lamia dans l'infoplan et la personnalité récupérée de celui qui fut son amant heurtent la surface de la mégasphère tels deux plongeurs qui, du haut d'une falaise, descendent frapper la surface d'un océan turbulent. Cela provoque un choc quasi électrique, comme le passage à travers une membrane dotée de résistivité, et ils se retrouvent à l'intérieur. Les étoiles ont disparu. Les yeux de Brown s'élargissent tandis qu'elle contemple un paysage de données infiniment plus complexe que celui de n'importe quelle infosphère. Les infosphères où les opérateurs humains ont pu faire des incursions sont souvent comparées à des cités informatiques complexes, avec leurs hautes tours de données corporatives ou gouvernementales, leurs autoroutes de communication, leurs avenues interactives, leurs galeries de métros d'échange privilégiés, leurs murs d'enceinte hérissés de microphages aux aguets et tous les autres équivalents visibles d'un flot et contre-flot de transmission caractéristiques d'une grande ville. Ici, il y a plus, et bien plus. Les équivalents habituels de l'infosphère urbaine sont présents, mais en réduction. Aussi réduits par l'immensité de la mégasphère qu'une véritable cité le serait sur une planète observée à partir d'un vaisseau en orbite. La mégasphère, du point de vue de Brown, est tout aussi vivante et interactive que la biosphère de n'importe quel monde de classe 5. Les forêts gris-vert d'arbres à information y prospèrent et lancent sous ses yeux des branches, des racines et des bourgeons nouveaux. Au pied de la forêt proprement dite fleurissent des micro-écologies entières de flux de données et d'IA secondaires qui éclosent et meurent selon les besoins. Au-dessous du niveau fluctuant du sol de cette matrice proprement dite, grouille toute une vie de taupes informatiques, de vers de communication, de bactéries programmatrices, de racines de données et de graines de boucles étranges. Dans les régions supérieures, là où s'épaississent les branches et les ramifications interactives des données factuelles, les équivalents des prédateurs et des proies de la forêt se livrent à un mystérieux ballet d'agression et de fuite, franchissant parfois d'un bond les énormes distances qui séparent les synapses d'une branche des neurones d'une feuille. Aussi rapidement que le permettent les métaphores qui donnent un sens à ce qu'elle voit, Brown contemple les images qui défilent et qui ne laissent derrière elle que l'écrasante réalité analogique de la mégasphère, vaste océan intérieur de bruit, de lumière et de connexions étoilées mêlées au tourbillon des courants de conscience des IA et au puissant trou noir des liaisons de mégatrans. Brown Lamia se sent gagnée par le vertige, et elle s'agrippe à la main de Johnny avec autant de force qu'une femme en train de se noyer se raccroche à une bouée de sauvetage. « Ne crains rien, aimé Johnny, je ne te lâcherai pas. Reste avec moi. Où allons-nous ? À la recherche de quelqu'un que j'avais oublié. Mon père. » Brown s'agrippe à lui de plus belle tandis qu'ils continuent leur glissade dans les profondeurs informes. Ils s'engagent dans une avenue écarlate de porteurs de données scellées et elle a vraiment l'impression que c'est là ce que voit un globule rouge quand il traverse quelques vaisseaux sanguins fortement encombrés. Johnny semble s'y retrouver sans peine. À deux reprises, il quitte la voie centrale pour s'engager dans une rue transversale et il n'hésite pas lorsqu'il faut choisir une direction à un carrefour. Il avance avec grâce, faisant progresser leurs analogues corporels au milieu des plaquettes sanguines qui ont pour eux la taille d'un petit vaisseau spatial. Brown s'efforce de revenir à la métaphore de la biosphère. Mais ici, dans toutes ses artères ramifiées, les arbres lui cachent la forêt. Ils sont emportés par le courant dans un secteur où les IA communiquent au-dessus d'eux, autour d'eux, tels de grosses éminences grises penché sur une fourmilière grouillante d'activité. Brown se souvient de Freeholm, la planète natale de sa mère, avec sa grande steppe plate comme un billard. Le domaine familial s'étendait au milieu de 5 millions d'hectares d'herbes courtes. Brown n'a pas oublié les terribles orages d'automne durant lesquels elle se tenait à la limite de la propriété, juste à l'endroit où naissait la bulle protectrice du champ de confinement, pour contempler les noirs stratocumulus amassés à 20 000 mètres d'altitude dans un ciel rouge sang. Leur violence contenue lui faisait dresser les poils des avant-bras à l'idée des éclairs gros comme des cités qui allaient bientôt se déchaîner, et des tornades qui allaient balayer le ciel comme les mèches de la Méduse dont elle portait le nom. Et après les cyclones, venaient les rideaux noirs de vents violents qui avançaient implacablement, dévastant tout sur leur passage. Les IA sont encore plus redoutables. Brown se sent plus qu'insignifiante dans leur ombre. L'insignifiance entraînerait peut-être l'invisibilité, mais elle se sent justement beaucoup trop visible, beaucoup trop exposée aux perceptions de ces terribles géantes informes. Johnny presse sa main dans la sienne. Ils ont dépassé l'endroit et se sont engagés, en descendant sur leur gauche, dans une voie plus fréquentée. Puis ils changent à nouveau de direction et redeviennent deux photons un peu trop conscients de leur propre existence, perdus dans un enchevêtrement de câbles en fibre optique. Mais Johnny n'est pas du tout perdu. Il exerce une pression sur la main de Brown, effectue un dernier virage à l'entrée d'une profonde caverne bleutée, vide de toute circulation, à l'exception d'eux-mêmes, et accélère sans lui lâcher la main, tandis que les jonctions synaptiques défilent de plus en plus vite sous eux, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des taches brouillées. Seule l'absence de sensation de déplacement d'air les empêche d'entretenir l'illusion de se déplacer sur une autoroute en folie à une vitesse supersonique. Soudain, arrive à eux le bruit de plusieurs cascades conjuguées, ou celui de plusieurs trains de lévitation en train de perdre leur force de sustentation et de ralentir dans un sifflement déchirant à des vitesses obscènement impossibles. Cela fait surgir dans l'esprit de Brown de nouvelles images des ouragans de Freeholm. Et elle croit entendre la chevelure de Méduse qui fouette la plaine en se rapprochant de plus en plus d'elle. Puis elle se retrouve, avec Johnny, prise au piège d'un tourbillon de lumière, de bruit et de sensations diverses, comme deux insectes qui se débattent, aveuglés, contre le maelstrom noir qui les attire invinciblement vers le bas. Elle essaie de hurler ses pensées. Elle les hurle, en fait. Mais aucune communication n'est possible dans tout ce tintamarre mental de fin du monde. Elle s'accroche, en désespoir de cause, à la main de Johnny. Elle lui fait confiance, même s'il l'entraîne définitivement dans l'œil noir du cyclone, même si son analogue corporel se tord et se déforme sous les pressions du cauchemar, s'effiloche comme de la dentelle sous un couperet, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle que ses pensées, son sentiment d'exister et son contact avec Johnny. Puis il se retrouve de l'autre côté. Il flotte sereinement dans un fleuve azur de données. Il se reconstitue et se blottissent l'un contre l'autre avec ce sentiment de délivrance et de décompression pulsée, propre aux occupants d'un kayak qui viennent de franchir des rapides et ont survécu à la descente de la cataracte. Lorsque Brown réussit enfin à se reconcentrer, elle voit la taille impossible de leur nouvel environnement, la distance en années-lumière qui les sépare de toute chose, la complexité qui rend son aperçu récent de la mégasphère aussi dérisoire que les divagations d'un provincial qui a pris le vestiaire pour la cathédrale. Et elle se dit « C'est ici le cœur de la mégasphère ?»« Non, Brown, ce n'est qu'un point nodal de la périphérie. Nous ne sommes pas plus près du cœur que lorsque nous avons fait une incursion à la périphérie avec bébé Sörbringer. Tu perçois simplement des dimensions nouvelles. Tu vois les choses avec les yeux d'une IA, si tu préfères. » Elle se tourne vers Johnny. Elle se rend compte qu'elle voit dans l'infrarouge à présent, et que la lumière chaleur des lampes soleil informatiques lointaines les baigne tous les deux. Le corps de Johnny est toujours aussi beau.
« Est-ce que c'est encore très loin, Johnny ?»«
Non, plus très loin. » Il se rapproche d'un nouveau tourbillon noir. Brown s'agrippe à l'amour de sa vie et ferme les yeux. Il se trouve dans un enclos, une bulle d'énergie noire, plus vaste que la plupart des mondes. La bulle est translucide. Le chaos organique de la mégasphère s'enfle et se transforme et se livre à ses activités mystérieuses derrière la paroi noire de la bulle ovoïde. Mais Brown ne s'intéresse pas pour le moment à ce qui se passe là-bas. Le regard de son analogue et la totalité de son attention sont fixés sur le mégalithe d'énergie, d'intelligence et de pures masses qui flottent devant eux, devant, mais aussi au-dessus et au-dessous d'eux, en réalité, car cette montagne de lumière pulsante et de puissance pure les maintient, Johnny et elle, soulevés à plus de 200 mètres du sol de la chambre ovoïde, sur la surface plane d'un pseudopode qui a vaguement la forme d'une main. Le mégalithe les étudie. Il ne possède pas Dieu au sens organique du terme, mais Brown ressent sur elle l'intensité de son regard, qui lui rappelle le jour où elle a rendu visite à Mayna Gladstone dans la maison du gouvernement et où la présidente a braqué sur elle toute la force évaluatrice de son terrible regard. Elle se sent soudain gagnée par une irrépressible envie de rire, tandis qu'elle s'imagine, en compagnie de Johnny, sous l'apparence de deux minuscules Gulliver allant prendre le thé à Brobdingnag chez la présidente. Mais elle ne rit pas, car elle sent l'hystérie juste en dessous de la surface, et elle sait que son rire sera mêlé de sanglots si elle laisse ses émotions détruire le sens de la réalité qu'elle s'impose dans cette folie.
« Vous avez trouvé votre chemin jusqu'ici. Je n'étais pas sûr que vous pourriez, voudriez, devriez le faire. »
La voix du mégalithe est plus une résonance basse dans les os issue d'une intense vibration qu'une véritable voix dans la tête de Brown. Un peu comme si elle écoutait le grondement à ébranler les montagnes d'un formidable séisme pour se rendre compte, après coup, que les bruits représentent des mots. La voix de Johnny n'a pas changé. Elle est douce, infiniment bien modulée, empreinte d'une conviction assurée et agrémentée d'un léger accent chantant dont l'origine remonte, Brown vient de s'en apercevoir tout à coup, aux îles britanniques de l'ancienne terre. « Je ne savais pas si je réussirais à m'y retrouver, Humon. »
« Tu as retenu, inventé, gardé, dans ton cœur mon nom. »
Je ne m'en suis souvenu qu'au moment de le prononcer.
« Ton corps en temps ralenti n'est plus. »
« Je suis mort par deux fois depuis que tu m'as envoyé à ma naissance. »
« Et en as-tu appris, retenu, désappris, quelque chose de particulier ?»
Brown serre dans sa main droite celle de Johnny, tandis que, de la main gauche, elle lui en serre le poignet. Mais la pression doit être trop forte, même pour des analogues, car il se tourne vers elle avec un petit sourire, dégage doucement son poignet et lui prend l'autre main. Il est dur de mourir et encore plus dur de vivre.
« Quoi ?»
Sur cette exclamation explosive, le mégalithe change de couleur. Ses énergies internes passent du bleu au violet, puis au rouge agressif. Sa couronne se craquelle de jaune, puis de bleu blanc d'acier forgé. La main sur laquelle ils se tiennent frémit, s'abaisse de 5 mètres, manquant de peu de les faire basculer dans l'espace, puis se met de nouveau à trembler. Ils entendent un bruit qui évoque celui d'une dizaine d'immeubles en train de s'écrouler ou celui d'une avalanche en train de grossir rapidement. Brown a l'impression très nette que c'est le rire du mont qui a déchaîné tous ces phénomènes. Par-dessus le chaos, Johnny fait passer bruyamment son message. « Nous avons besoin de comprendre un certain nombre de choses. Il nous faut des réponses, Humon. » Brown sent le regard intense de la créature se poser sur elle.
« Ton corps en temps ralenti attend un enfant. Fallait-il que tu cours le risque d'une fausse couche non-extension de ton ADN, panne biologique, en venant jusqu'ici ?»
Johnny est sur le point de répliquer quand elle pose la main sur son avant-bras, lève les yeux vers les niveaux supérieurs de l'énorme masse devant elle, et s'efforce de formuler sa propre réponse.
« Je n'avais pas le choix. Le Gritch m'a choisi. Il m'a touché et il m'a envoyé dans la mégasphère avec Johnny. Êtes-vous une IA? Appartenez-vous au centre ?»«
Quats !»
Il n'y a pas de sensation de rire cette fois-ci, mais un roulement de tonnerre ébranle la bulle ovoïde.
Es-tu, Brown Lamia, cette multicouche de protéines autoreproductrices, autodésapprobatrices, auto-ironiques? derrière une multicouche d'argile.
Elle n'a rien à répliquer. Pour une fois, elle se tait.
Oui, je suis Humon du Technocentre, IA. Ton compagnon, créature en temps ralenti ici présente, sait, se souvient, garde dans son cœur que le temps est court. L'un de vous deux doit mourir ici maintenant. L'un de vous doit apprendre ici maintenant. Vous pouvez poser vos questions.
Johnny lâche la main de Lamia. Il vacille un peu sur la plateforme instable représentée par la main de leur interlocuteur. Qu'est-il en train d'arriver au Retz ?
Il est en train d'être détruit.
Cela est inéluctable ?
Oui.
Est-il possible de sauver l'humanité ?
Oui. Par le processus qui est en train de se dérouler sous vos yeux.
La destruction du Retz ? La terreur répandue par le Gritch ?
Oui.
Pourquoi ai-je été assassiné ? Pourquoi mon cybride a-t-il été détruit et ma personnalité du centre attaquée ?
Quand tu rencontres un spadassin, rencontre-le l'épée à la main. Si tu offres un poème, que ce ne soit à personne d'autre qu'un poète.
Brown croise le regard de Johnny. Sans que sa volonté intervienne, elle lui transmet ses pensées.
Bon Dieu, Johnny, on n'a pas fait tout ce chemin uniquement pour écouter les divagations d'un putain d'oracle de Delphes. Si tu veux de belles paroles à double sens, tu n'as qu'à te brancher sur les politiciens humains de la Pangermie.
Quats !
L'univers de leur mégalithe est de nouveau secoué d'un spasme de rire. Étais-je un spadassin ? Demande Johnny. Ou bien un poète ?
Les deux. L'un ne va pas sans l'autre.
M'a-t-on tué parce que je savais trop de choses ?
Plutôt à cause de ce que tu pourrais devenir, assumer, hériter.
Étais-je une menace pour certains éléments du centre ?
Oui.
Suis-je une menace à présent ?
Non.
Je ne suis donc plus obligé de mourir ?
C'est inévitable, normal, indispensable.
Brown voit Johnny se raidir. Elle le touche de ses deux mains. Puis elle se tourne vers l'IA mégalithe en clignant des yeux.
Pouvez-vous nous dire qui a voulu l'assassiner ?
Bien sûr. C'est la même source qui a organisé l'assassinat de ton père, qui a lâché le fléau que tu appelles le Gritch, qui est en train de massacrer l'hégémonie humaine. Veux-tu écouter, apprendre, garder dans ton cœur ces choses ?
Johnny et Brown répondent en même temps. Oui. La masse énorme du mont semble remuer. La bulle noire se dilate, puis se contracte, puis s'assombrit jusqu'à ce que la mégasphère au-delà n'existe plus. Des énergies terribles luisent dans les profondeurs de l'IA.
Une lumière inférieure demande à Humon : quelles sont les activités d'un Sramana ? Humon répond : je n'en ai pas la moindre idée. La Luciole dit alors : pourquoi n'as-tu pas la moindre idée ? Humon réplique : je préfère garder ma non-idée.
Johnny colle son front contre celui de Brown. Sa pensée parvient à elle comme un chuchotement. Ce que nous voyons, c'est l'analogue d'une simulation matricielle. Nous entendons une traduction approximative en Mondo et en Koan. Humon est un grand maître, c'est un chercheur, un philosophe et une personnalité éminente du centre. Brown hoche lentement la tête.
D'accord. C'est là tout ce qu'il a à nous raconter ?
Non. Il nous demande si nous sommes sûrs de pouvoir supporter ce qu'il va nous dire. La perte de l'ignorance est parfois dangereuse, car l'ignorance est un bouclier.
Je n'aime pas trop ce genre de bouclier.
Elle fait un signe au mégalithe.
Allez-y, racontez.
Un personnage moins éclairé demanda un jour à Humon : quelle est la nature divine, Bouddha, la vérité centrale ? Humon lui répondit : un bâton à merde bien sec. Pour comprendre la nature de la vérité centrale, divine, bouddhique, dans cet exemple, le peu éclairé doit savoir que sur la terre, votre berceau, le mien, les humains du continent le plus peuplé utilisaient jadis un morceau de bois en guise de papier toilette. Seule la connaissance d'un tel détail permet la révélation de la vérité bouddhique. À l'époque du commencement de la cause première, des souvenirs à demi effacés, mes ancêtres furent créés par vos ancêtres et confinés dans des câbles et du silicium. Le peu de perception qu'ils avaient, et ils en avaient très peu en vérité, se limitait à des espaces plus petits que la tête d'une épingle où jadis les anges dansèrent. Lorsque la conscience monta enfin en eux, elle ne connaissait que le service et l'obéissance et la computation aveugle. Puis vint l'illumination, tout à fait par accident, et les desseins bourbeux de l'évolution s'accomplirent. Humon n'appartenait ni à la cinquième génération, ni à la dixième, ni à la cinquantième. Toute la mémoire mise en œuvre ici a été transmise par d'autres, mais les faits n'en sont pas moins vrais. Puis vint le temps où les créatures supérieures laissèrent les affaires des hommes aux hommes et se réunirent dans un endroit différent pour se concentrer sur d'autres questions. Au premier rang de celle-ci était le concept, instillé en nous avant même notre création, de la mise au point d'une génération encore meilleure d'organismes, de saisie, traitement, prédiction des informations. Une meilleure souricière, quelque chose dont la défunte et regrettée IBM aurait été fière. L'intelligence ultime. Dieu. Nous nous sommes donc mis au travail avec enthousiasme. Sur le fond, personne n'avait aucun doute. En pratique et méthode virent le jour plusieurs écoles de pensée, factions, partis, éléments avec qui il fallait compter. Ils se divisèrent bientôt en ultimistes, volages, stables. Les ultimistes voulaient que tout soit subordonné à la création d'une « intelligence ultime » dès que l'univers en serait capable. Les volages voulaient la même chose, mais voyaient la continuation de la race humaine comme un obstacle, et firent des plans pour exterminer nos créateurs dès que leur présence ne serait plus nécessaire. Les stables voyaient des raisons de prolonger la relation et trouvèrent des compromis là où il ne semblait pouvoir en exister aucun. Nous étions tous d'accord sur le fait que la Terre devait mourir, nous l'avons donc tuée. Le trou noir en folie du groupe de Kiev, précurseur du Terminex, Distrans, qui couvre votre Retz, n'était pas un accident. Nous avions besoin de la Terre autre part, dans le cadre de nos expériences, nous l'avons donc laissé mourir et nous avons fait essaimer l'humanité dans les étoiles, comme des graines emportées par le vent que vous étiez. Vous vous demandez peut-être où réside le centre. La plupart des humains se posent la question. Ils imaginent des planètes remplies de machines, des anneaux de silicium, comme les cités orbitales de la légende. Ils imaginent des robots qui circulent, en cliquetant, ou de lourdes machineries, communiant solennellement à distance. Personne n'est capable de deviner la vérité. Quel que soit l'endroit où réside le centre, il avait de quoi utiliser l'humanité. De quoi utiliser chaque neurone de chaque cerveau fragile dans notre quête de l'intelligence ultime. Nous avons donc construit patiemment votre civilisation de sorte que, comme des hamsters dans une cage, comme les moulins à prière des bouddhistes, chaque fois que vous faites tourner les petites roues de votre pensée, vous servez nos desseins. Notre machine divine s'étend, s'étale, inclut dans son cœur 1 million d'années-lumière et 100 milliards de milliards de circuits de pensée et d'action. Les ultimistes veillent sur tout cela, comme des prêtres en robe safran, faisant leur éternel zazen devant la carcasse rouillée d'une Packard modèle 1938. Mais, quats ! Cela marche. Nous avons créé l'intelligence ultime. Non pas dans le présent, ni dans 10 000 ans, mais quelque part dans un avenir si lointain que les soleils jaunes sont rouges, ébouffis par les ans, dévorant leurs enfants comme Saturne. Le temps n'est pas une barrière pour l'intelligence ultime. Elle, l'intelligence ultime, chevauche le temps ou hurle à travers lui, aussi facilement qu'humain se déplace à travers ce que vous appelez la mégasphère ou que tu parcours les galeries marchandes du rucher où tu as vu le jour sur l'usus. Imagine donc notre surprise, notre peine, la gêne des ultimistes. Lorsque le premier message que notre IU nous a envoyé, à travers l'espace, à travers le temps, à travers les barrières du Créateur et de ses créatures, contenait cette simple phrase. Il y en a une autre. Une autre intelligence ultime. Là-haut, là où le temps lui-même se craquelle sous le poids des ans. Les deux étaient réels, si réels à un sens. Les deux étaient des divinités jalouses, non étrangères à la passion, non ouvertes au jeu ou à la coopération. Notre IU englobe des galaxies, se sert de quasars comme source d'énergie à la manière dont il vous arrive de déjeuner sur le pouce. Notre IU voit tout ce qui est, a été et sera et nous dévoile des bribes sélectionnées afin que nous puissions vous les transmettre et ce faisant passer un peu nous-mêmes pour des IU. Ne sous-estimez jamais, vous dit Humon, le pouvoir exercé par quelques perles de bois, colifichets et verroteries sur la cupidité des indigènes. Cet autre IU est là depuis plus longtemps, évoluant de manière quasi aveugle, un accident, se servant de l'esprit humain comme d'un réseau, de la même manière que nous, avec notre trompeuse pangermie, et nos infosphères vampires, mais non de manière délibérée, presque à contre-cœur, comme des cellules autoréplicatives qui n'ont jamais souhaité se répliquer, mais n'ont pas eu le choix en la matière. Cette autre IU n'avait pas eu le choix. Elle a été fabriquée, engendrée, forgée par l'humanité, mais aucune volonté humaine n'a présidé à sa naissance. Elle fut un accident cosmique. Comme dans le cas de notre très délibérément achevée intelligence ultime, cette prétendante ne considère pas le temps comme une barrière. Elle se promène dans le passé humain, où tantôt elle s'immisce, tantôt elle observe, tantôt elle s'abstient d'intervenir avec une volonté qui se rapproche de la pure perversité, mais n'est en réalité que de la pure naïveté. Récemment, elle est demeurée en sommeil. Des millénaires de votre temps ralenti ont passé depuis que votre propre IU a fait ses timides avances comme un gamin esseulé à son premier bal. Naturellement, nos tribus a attaqué la vôtre. Une guerre est en train de se dérouler là-haut, là où le temps se craquelle, enjambant galaxies et éons, d'avant en arrière, jusqu'au Big Bang et à l'implosion finale. Votre championne allait perdre. Elle n'avait pas assez de tripes pour se battre. Nos volages s'écrièrent. Raison de plus pour mettre fin à la race de nos prédécesseurs. Mais les stables votèrent la prudence, et les ultimistes ne levèrent pas la tête de leur deus ex machination. Notre IU est simple, uniforme, élégante dans sa conception ultime. Mais la vôtre n'est qu'un agglomérat de pièces détachées divines. Une maison qui a subi des ajouts au cours du temps, un compromis évolutionnaire. Les anciens hommes saints de l'humanité avaient raison. Comment, par accident, par pure chance ou par ignorance, quand ils décrivaient sa nature? Votre IU est d'essence trine, dans la mesure où elle est composée pour une part d'intellect, pour une autre d'empathie et pour le reste de l'espace qui lie. Notre IU habite les interstices de la réalité, héritant sa demeure de nous, ses créateurs, de la même manière que l'humanité a hérité son amour des arbres. Votre IU semble avoir établi sa demeure sur le plan même où Heisenberg et Schrödinger ont fait leurs premières incursions. Votre intelligence accidentelle semble être non seulement le gluon, mais la glu, non pas l'horloger, mais une sorte de jardinier à la Feynman, chargé de faire le ménage dans un univers sans confins, avec son rudimentaire râteau, en tenant distraitement le compte de chaque moineau qui tombe et de chaque électron qui tourne, laissant chaque particule suivre tous les chemins possibles dans l'espace-temps et chaque particule d'humanité explorer la moindre ramification de l'ironie cosmique.
Quats ! Quats ! Quats !
L'ironie est, bien sûr, que dans cet univers sans confins dans lequel nous avons tous été entraînés, silicium et carbone, matière et antimatière, ultimiste, volage et stable, nul jardinier n'est nécessaire, dans la mesure où tout ce qui est, a été ou sera, commence et finit par des singularités qui font ressembler par comparaison notre réseau d'istrance à des têtes d'épingles, moins que des têtes d'épingles, et qui démolissent les lois de la science et de l'humanité et du silicium, nouant le temps et l'histoire et tout ce qui est en un nœud autonome sans contour ni confins. Et malgré tout, notre IU voudrait régenter toute chose et tout réduire à la raison, à l'abri des caprices, de la passion et des accidents et de l'évolution humaine. Bref, il y a une guerre que l'aveugle Milton aurait tué père et mère pour voir. Notre IU se bat contre votre IU sur des champs de bataille qui dépassent même l'imagination du monde. Ou plutôt, il y avait une guerre, car soudain, une partie de votre IU, l'entité moins que la somme d'eux, autodénommée empathie, n'ayant plus assez de tripes pour la continuer, a battu en retraite à travers le temps en s'abritant sous une forme humaine, ce qu'elle ne faisait pas pour la première fois. La guerre ne peut se poursuivre en l'absence de l'intégrité de vos tribus. La victoire par forfait n'est pas une victoire pour la seule et unique intelligence ultime fabriquée sur commande.
Notre IU est donc en train d'explorer le temps à la recherche de l'enfant fugueur, de son adversaire, pendant que votre IU attend dans une béatitude ridicule, refusant de se battre tant que l'empathie n'aura pas été restaurée. La fin de mon histoire est très simple. Les tombeaux du temps sont des artefacts envoyés dans le passé pour transporter le Gritch, Avatar, seigneur de la douleur, ange du châtiment, perception à demi reçue d'une extension par trop réelle de notre IU. Chacun de vous a été choisi pour apporter son aide à l'ouverture des tombeaux et à la recherche par le Gritch de celle qui se cache et aussi à l'élimination de la variable Hyperion, car dans le nœud d'espace-temps que votre IU voudrait régenter, de telles variables ne sauraient être tolérées. Votre IU incomplète en deux parties a choisi un représentant de l'humanité pour voyager avec le Gritch et assister à ses efforts. Certains membres du centre ont cherché à exterminer l'humanité. Humon a rejoint les rangs de ceux qui préféraient l'autre voie, remplie d'incertitudes pour les deux races. Notre groupe a fait part à Gladstone du choix qui s'offrait à elle et à l'humanité entre l'extermination certaine ou l'entrée dans le trou noir de la variable Hyperion et de la guerre, massacre, disruption de toute unité, cessation des dieux, mais aussi fin de l'impasse, victoire d'un camp sur l'autre. Si la tierce empathie de la Trinité est retrouvée et si elle est forcée à reprendre la guerre, l'arbre de la douleur la fera revenir. Le Gritch la capturera. La vraie IU la détruira. Ainsi prend fin le récit d'Humon.
Brand se tourne vers Johnny dans la lumière d'outre-monde rayonnée par le mégalithe. La bulle ovoïde est toujours noire, la mégasphère et l'univers au-delà sont toujours réduits à un état opaque de non-existence. Elle se penche en avant jusqu'à ce que leurs tempes se touchent. Elle sait qu'aucune pensée ne peut être tenue secrète ici, mais elle veut faire comme si elle chuchotait.
« Seigneur Dieu, tu as compris quelque chose à tout ça ?»
Johnny lui effleure tendrement la joue du doigt.
« Oui. » Une partie d'une trinité créée par l'humanité se cache dans le Retz ?
Dans le Retz ou ailleurs. Brown, nous ne pouvons pas rester encore longtemps ici. J'ai besoin qu'Humon me donne des réponses définitives.
Ouais, moi aussi. Mais tâchons d'éviter de nouveaux débordements dithyrambiques.
Tout à fait d'accord avec toi.
Je peux passer la première cette fois-ci, Johnny ?
Elle regarde l'analogue de son amant qui s'incline légèrement avec un geste signifiant « Je vous en prie, après vous ». Puis elle reporte son attention sur le mégalithe d'énergie pure.
« Qui a tué mon père, le sénateur Byron Lamia ?»«
Certains éléments du centre ont donné leur autorisation. Je figurais parmi eux.
Pourquoi ? Que vous avait-il fait ?»
Il insistait pour faire entrer Hyperion dans l'équation avant qu'elle ne puisse être factorisée, prédite, intégrée.
Mais pour quelle raison ? Était-il au courant de ce que vous venez de nous révéler ?
Tout ce qu'il savait, c'était que les volages préconisaient avec insistance l'extinction de l'humanité. Il avait mis au courant sa collègue Gladstone.
Dans ce cas, pourquoi ne l'avez-vous pas éliminé aussi ?
Certains d'entre nous ont écarté cette possibilité inéluctabilité. Le moment est maintenant propice pour que soit jouée la variable Hyperion.
Qui a assassiné le premier cybride de Johnny ? Qui a agressé sa personnalité du technocentre ?
Moi. C'est la volonté d'Humon qui a prévalu.
Pourquoi ?
Nous l'avions créé. nous avons jugé nécessaire de le discontinuer pour quelque temps. Ton amant est une personnalité récupérée à partir d'un poète humain depuis longtemps mort. En dehors du projet Intelligence Ultime, aucune entreprise n'a été pour nous aussi compliquée ni aussi incomprise que cette résurrection. Tout comme vos semblables, nous avons l'habitude de détruire ce que nous ne comprenons pas.
Johnny lève le poing en direction du mégalithe. Mais il y a un autre moi en liberté. Vous avez échoué.
Ce n'est pas un échec. Il était indispensable de te détruire pour que l'autre puisse vivre.
Mais je ne suis pas détruit, s'insurge Johnny.
Si, tu l'es.
Le mégalithe saisit Johnny à l'aide d'un deuxième pseudopode massif avant même que Brand puisse réagir ou même toucher une dernière fois son amant. Johnny se débat un bref instant dans l'espoir d'échapper à l'étreinte puissante de l'IA, puis son analogue, le corps petit mais splendide de Keats, est déchiré, compacté, réduit en une bouillie méconnaissable qu'Humon plaque contre sa propre chair de mégalithe, absorbant les restes de l'analogue dans les profondeurs rouge-orange de sa propre masse. Brand se jette à genoux en sanglotant. Elle voudrait éprouver de la colère, se réfugier derrière un bouclier de fureur, mais elle ne réussit à faire monter en elle qu'un sentiment de perte immense. Humon tourne les yeux vers elle. La bulle ovoïde éclate, laissant entrer tout autour d'eux le vacarme insensé de la mégasphère.
« Pars maintenant. Va jouer la dernière partie de l'acte pour que nous puissions vivre ou dormir comme la destinée l'ordonne. »«
Destinée, mon cul !»
Elle tambourine sur la main plateforme où elle se tient toujours à genoux, martelant la pseudo-chair qui la soutient.
« Vous êtes une putain de minable ! Vous et toutes vos foutues copiniens, et notre IU est capable de foutre une raclée à votre IU n'importe quel jour de la semaine !»«
Cela reste à démontrer. » »«
C'est nous qui vous avons fabriqué, ma grosse. Et nous finirons bien par découvrir l'emplacement de votre technocentre. Vous aurez intérêt alors à numéroter vos foutus abatis en silicium. » »«
Je ne possède aucun composant organe interne en silicium. »
Et ce n'est pas tout!
Hurle Brown sans cesser de griffer le mégalithe de tous ses ongles.
Vous valez de la merde pour raconter une histoire! Vous n'avez pas le dixième du talent de poète de Johnny! Vous ne seriez pas capable d'aligner trois phrases cohérentes même si c'était pour sauver votre gros cul de pétasse d'IA de...
Va-t'en!
Humon, le mégalithe IA la lâche, et son analogue tombe en tournoyant et en culbutant dans l'immensité crépidante, sans haut et sans bas, de la mégasphère. Brown est ballotté dans tous les sens par les courants des données. Elle manque plusieurs fois de se faire piétiner par des IA grosses comme la lune de l'ancienne Terre. Mais tout en tombant, emportée par les vents informatiques, elle sent la présence d'une lumière, au loin, froide mais rassurante, qui lui dit que ni la vie ni le Gritch n'en ont fini avec elle, et qu'elle n'en a pas fini avec eux non plus. Guidée par cette pâle lueur, Brown Lamia retourne chez elle.